Eh bien, merci d'abord à la bibliothèque des Amis de l'Instruction de nous réunir en cette journée du 21 mai pour parler d'un thème qui nous est cher, donc les bibliothèques populaires. Alors la première table ronde que je vais animer concerne les bibliothèques populaires d'ici et d'ailleurs, avec Marie-Françoise Cachin, professeur émérite de littérature anglaise à l'Université Paris 7, Bruno Liesen, conservateur à la bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles, et Annick Guinry, qui a dirigé longtemps la bibliothèque de Choisy-le-Roi et qui nous parlera tout à l'heure non pas de l'actuelle bibliothèque, mais d'un de ses ancêtres. Alors pour introduire le débat, je dirais d'abord qu'il est toujours délicat de définir ce qu'est le populaire. On peut le définir en disant c'est ce qui émane du peuple ou au contraire ce qui est destiné au peuple. Mais les définitions ne sont pas très rigoureuses, ce qui fait que lorsqu'on parle de livre populaire, on donne souvent des synonymes, livres de large circulation, livres de grande consommation. On hésite à qualifier véritablement ce qu'est le populaire. Alors pour une bibliothèque populaire, c'est évidemment encore plus compliqué. D'une certaine manière, on pourrait partir de l'idée que les bibliothèques au départ n'ont pas été conçues, ni pour le peuple, ni pour la majorité de la population. Si l'on se réfère à la mythique bibliothèque d'Alexandrie, on ne doit pas oublier qu'on a affaire à une société de type esclavagiste, ce qui veut dire que 97 ou 98% de la population est analphabète et n'a aucune vocation à aller dans les bibliothèques, même si on peut trouver, bien entendu, et il y en avait, des esclaves alphabétisés, érudits et même enseignant les matières les plus compliquées, y compris la philosophie, confère Aristote et sa destinée. À Rome, d'une certaine manière, on peut trouver les premières bibliothèques populaires. Je m'explique. Ce ne sont pas des bibliothèques qui ressembleraient à celles-là et dans lesquelles on pourrait trouver des rouleaux plutôt que des codex, mais je fais allusion au fait que lorsqu'un général ou un empereur revient à Rome pour célébrer son triomphe, il fait peindre sur des panneaux en bois, un peu à la manière des bandes dessinées d'aujourd'hui, le récit de sa victoire. D'une certaine manière, j'aurais envie de dire qu'on a affaire aux premières bibliothèques populaires. Alors évidemment, ce sont des bibliothèques en images, mais là, effectivement, la majorité de la population est convoquée pour, en quelque sorte, célébrer les victoires. En Orient, on pourrait peut-être trouver des stèles en pierre, ailleurs des carapaces de tortues ayant vocation à être comprises par la majorité de la population. Pour se rapprocher de nous, en reprenant une phrase qui est attribuée, je crois, à Saint Jérôme, on pourrait dire que le parvis des cathédrales est en quelque sorte l'illustration d'une sorte de bibliothèque populaire, puisque on considère à tort ou à raison, sans doute plus à tort qu'à raison, que le récit biblique qui est présenté était accessible à la population. Il ne faut pas exagérer. Allez vous installer pendant une demi-heure ou une heure devant le fronton de Notre-Dame, vous aurez pour la plupart beaucoup de difficultés, même si vous êtes très férus d'Ancien et Nouveau Testament, vous éprouverez quand même de grandes difficultés à comprendre la plupart des scènes. Alors, que cette légende soit vraie ou fausse, il y avait en tout cas, disons, une manière de s'adresser au plus grand nombre. Alors, pour parler de l'objet sur lequel nous allons effectivement intervenir, les bibliothèques populaires au sens plus moderne du terme, je pense qu'on pourrait considérer que les premières sociétés littéraires, elles ne sont pas populaires, mais elles sont relativement ouvertes par rapport aux sociétés aristocratiques. Elles s'adressent à une bourgeoisie large, c'est-à-dire une bourgeoisie des métiers, du commerce. Donc il y a une certaine descente vers le peuple. Ces sociétés littéraires qui par abonnement vont commencer à acheter des livres et à former ce qu'on appellera un peu plus tard les cercles de lecture en France, les circulating libraries en Angleterre, les Leihbibliotheken en Allemagne, sont pour partie, mais pour partie seulement, l'un des ancêtres des bibliothèques populaires du XIXe siècle. Le deuxième ancêtre, ce sont les sociétés populaires qui apparaissent au moment, en grand nombre au moment de la Révolution française et qui vont se doter de journaux, de livres, pour essayer de partager cette culture. On va les retrouver entre 1789 et 1830, mais il y aura une nouvelle explosion autour de 1830 avec un certain nombre de sociétés, associations polytechniques, philotechniques, qui vont se doter de bibliothèques et qui vont constituer la deuxième matrice des bibliothèques populaires. La troisième, elle est plus connue, c'est celle qui va donner naissance directement à la bibliothèque des amis de l'instruction publique. Là, on est au tout début des années 1860. On dit parfois que le Second Empire est en train de se libéraliser. Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Parce que le Second Empire ne se libéralisera véritablement qu'en 1868 ou 69, au moment où il acceptera que le débat devienne public et qu'on puisse discuter de la politique. Mais disons qu'après 1860, après le traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la dictature impériale se fait un peu plus relâchée, je préfère dire comme ça, et laisse effectivement, dans le domaine culturel, un certain nombre d'individus ou de groupes d'individus, d'associations, prendre un certain nombre de libertés et créer ces bibliothèques, dont la bibliothèque des Amis de l'Instruction. N'oublions pas, et ce sera presque mon dernier mot, qu'un an auparavant, en 1862, le ministre de l'Instruction publique, c'est l'ancêtre de l'Éducation nationale, dans une circulaire très importante, a créé un type de bibliothèque populaire très particulier. Ce sont les bibliothèques populaires qui vont être installées dans une armoire dans chacune des écoles du pays. On les appelle bibliothèques scolaires, mais comme elles ne sont pas destinées aux élèves, mais aux parents des élèves, on peut véritablement considérer qu'il y a là, au fond, la troisième matrice des bibliothèques populaires. Scolaires, populaires, ces armoires sont destinées quand même à la population. Et je ne résiste pas au plaisir de citer une des institutrices d'avant la Première Guerre mondiale que Jacques et Mona Ozouf avaient interviewée lors de leur grande enquête dans les années 1950. Cette institutrice de l'ouest de la France expliquait qu'effectivement, avec cette bibliothèque populaire, elle prêtait des livres aux adultes et qu'un jour, elle a vu venir la trouver une mère, mais une mère d'un paysan qui avait plus de 40 ans, mais qui était venue trouver l'institutrice en lui disant « Il faut arrêter parce que le lisage l'a toujours perdu ». Et je trouve cette réflexion extraordinaire. Cette vieille paysanne dont le fils a plus de 40 ans, mais qui n'a pas encore conquis véritablement le droit de lire sans demander la permission à sa mère, le lisage l'a toujours perdu. On n'est pas loin du chien de Lisard, la fameuse apostrophe du père Sorel au début du Rouge et le Noir, parce que son fils est en train de lire perché dans un arbre. On voit bien, avec ces tabous, combien de réticences, combien d'obstacles il a fallu contourner pour créer des bibliothèques populaires. Alors, on ne va pas beaucoup parler de la France aujourd'hui, j'ai donc résumé en 7 minutes pour vous laisser le maximum de temps. Je passe donc immédiatement la parole pour une dizaine de minutes à Marie-Françoise Cachin, qui a publié il y a quelques années aux presses de l'ENSIB à Villeurbanne un très beau livre sur l'Angleterre.
La lecture en Grande-Bretagne. Voilà, en Angleterre, parce que exactement. Le problème, c'est qu'il faut se limiter entre l'Angleterre et l'Écosse et
tu as la parole.
Reste. J'enchaîne là-dessus. L'Écosse étant un cas particulier que j'aimerais bien étudier, mais qui demande beaucoup de recherche, parce que l'Écosse était bien en avance par rapport à l'Angleterre même. Ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Certes, je suis au départ une littéraire, comme on dit, encore que j'ai fait une thèse d'histoire des idées, ce qui n'était pas la mode à l'époque, mais je suis surtout très vite orientée vers l'histoire de l'édition en Grande-Bretagne. Donc je ne me considère pas vraiment professeur de littérature anglaise, mais en tout cas, je n'ai pas terminé ma carrière comme ça. Alors j'avais intitulé mon texte pour le colloque « Introuvables bibliothèques populaires anglaises » parce que mon maître à ma gauche, ici présent, Jean-Yves Mollier, avait écrit quelque part « L'introuvable bibliothèque du peuple », une citation qui m'a bien servi parce que je cherchais comment aborder le problème des bibliothèques populaires anglaises. Pourquoi est-ce que j'avais des difficultés ? Parce qu'on ne trouve jamais, ou presque quasiment jamais, l'expression « popular libraries », qui serait la traduction littérale de « bibliothèque populaire ». J'ai fini par trouver un livre où on utilisait l'expression, mais on n'utilisait pas le terme de « popular libraries ». Et pourtant, l'Angleterre a toujours été très soucieuse d'alphabétisation et d'éducation populaire, pour deux raisons. D'une part, essayer de, bien sûr, éduquer le peuple, entre guillemets, mais surtout pour permettre à l'industrie développante, croissante, d'avoir du personnel adéquat, suffisamment compétent, suffisamment disponible pour ce dont il était nécessaire de fabriquer. Donc, soucieuse d'alphabétisation et d'éducation populaire, et en même temps, manque de bibliothèques pour les couches populaires. Il y a deux notions fondamentales aussi sur lesquelles il faut insister dans ce contexte. C'est la notion de « self-help », qui est intraduisible, qui renvoie à l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera », ça veut dire l'auto-aide, si on pouvait traduire ça comme ça mot à mot, ou l'aide de soi, je ne sais pas, ou l'aide par soi-même, et le terme de respectabilité. Ces deux concepts sont à la base de tout ce qui touche aux bibliothèques et au développement de l'alphabétisation. une date importante, c'est 1849, où a été lancée une commission en vue de créer des bibliothèques publiques et gratuites. Il y avait tout un historique derrière sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est-à-dire le fait qu'on commençait à dire que vraiment l'Angleterre était nulle, si je puis dire. L'Angleterre était nulle parce que, justement, il n'y avait pas de bibliothèque, qu'en France c'était beaucoup mieux, qu'en Allemagne c'était beaucoup mieux. Donc, l'idée de créer des bibliothèques publiques et gratuites a émergé de façon de plus en plus manifeste. Et dans ce contexte, a été établie une commission que j'ai eu la chance de trouver à la BNF, qui est une ressource extraordinaire, dont j'ai juste la page de titre, qui s'appelle « Rapport du comité choisi sur les bibliothèques publiques », et qui est extrêmement intéressant et qui est une mine d'informations. Je vais probablement en retravailler dessus un jour ou l'autre. Et on essayait de voir ce qui se passait, ce qui existait. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il existait quand même pas mal de choses. Et c'est pour ça que dire « introuvable bibliothèque populaire », c'est une boutade, parce qu'il y a eu des tas de sortes de bibliothèques créées pour les classes populaires, parce que c'est moi dans ce sens-là que je l'ai entendu, hein, des bibliothèques destinées aux classes laborieuses. Il y a eu des contextes particuliers, entre autres le contexte des mouvements radicaux et du chartisme. Il y a eu des bibliothèques aussi créées par le patronat pour les raisons que j'ai un peu évoquées précédemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des employés, des ouvriers qui sachent lire un minimum et qui donc il faut inciter à lire. Par ailleurs, et pour moi ce sont les seules bibliothèques qui peuvent être qualifiées de populaires au XIXe siècle, disons sous Victoria grosso modo, à partir de l'avènement de Victoria, c'est ce qu'on a appelé les working class libraries, c'est-à-dire les bibliothèques dont les membres sont issus de la classe ouvrière et qui sont à la fois leurs propriétaires et leurs gestionnaires. Et ceci, prioritairement, évidemment, se développe dans les régions industrielles et en Écosse. C'est pour ça que l'Écosse est vraiment important. Alors, les toutes premières apparaissent dès le milieu du XVIIIe siècle, en particulier chez les mineurs du Pays de Galles. Je n'entre pas dans le détail, hein. Il y a différentes catégories de cet ordre. Il y a quelque chose qui s'appelle lycéum, comme on dirait les lycées, mais pas du tout dans le sens de, là, en l'occurrence, signifiant bibliothèque, où l'atmosphère était plus délassante que studieuse. Il y avait un phénomène très intéressant, je ne sais pas s'il existe ailleurs, je cherche toujours à savoir si dans d'autres pays c'était le cas, c'est ce qu'on a appelé les coffee house libraries, c'est-à-dire les bibliothèques de café. Alors, pourquoi ces bibliothèques de café, parce que il suffisait de payer son café pour pouvoir lire la presse. Donc la presse est extrêmement importante, parenthèse, la presse est fondamentale comme lecture en Angleterre. Mais on pouvait lire la presse et on pouvait lire aussi des romans et d'autres ouvrages instructifs. C'est vraiment un phénomène très intéressant, on a des témoignages et c'est vraiment ce qui me semble assez unique. Je ne sais pas, Jean-Yves, si tu as d'autres exemples dans d'autres pays. Il y a aussi, bien sûr, eu création de bibliothèques par les ouvriers, donc par les clubs d'ouvriers. Et donc là, bien sûr, c'était des bibliothèques qui fonctionnaient de manière tout à fait coopérative. Et il y a enfin, dans mon énumération, mais elle est absolument incomplète, elle est résumée de ce qu'il y a dans mon article, les bibliothèques des sociétés coopératives elles-mêmes. J'ai passé sous silence une institution qui a été créée assez tôt, qui s'appelle Mechanics Institute Libraries. Oui. Alors, Mechanics Institute, c'était des institutions créées en vue d'instruire les... Alors, mécanique est intraduisible, c'est pas mécanicien, c'est manœuvre, c'est pas ouvrier, c'est artisan, c'est un mot compliqué. Disons travailleur manuel, c'est ce qui correspondrait peut-être le mieux. L'initiative a été très positive au départ, mais malheureusement, la réalisation n'a pas suivi, pour la simple raison que c'était d'un niveau trop élevé, que les ouvriers n'étaient pas tentés de venir en fin de journée après beaucoup d'heures passées sur le lieu de travail, et que très vite, les classes moyennes ont mis la main dessus. Parce que c'est un gros problème qui se pose sur la question des bibliothèques populaires. Ce qui était au départ prévu comme bibliothèque populaire pouvait être entre les mains des classes moyennes, donc à ce moment-là, ça faussait l'optique, et d'autre part, parfois, donc récupéré par les classes moyennes. On a aussi là des témoignages nombreux, mais j'ai fini par trouver un exemple d'une bibliothèque ouvrière, populaire, je ne sais pas, on ne peut pas assimiler non plus populaire et ouvrier, mais enfin, disons une bibliothèque destinée aux operatives, encore un mot, il y a beaucoup de mots, l'anglais est beaucoup plus riche comme langue que le français, donc on a des tas de mots entre lesquels il est difficile de faire la différence et surtout de trouver des équivalents en français.
Voltaire n'était pas d'accord avec ça.
D'accord. Mais il se trompe, hein, parce que regardez les dictionnaires, vous verrez la différence. Enfin, c'est compliqué. Bref, il y a eu une catégorie de bibliothèques qui était destinée aux operatives, traduisez-le comme vous l'entendez, et le cas de Nottingham est intéressant parce que c'est à Nottingham, donc on est évidemment dans des régions industrielles. Alors je vais vous citer quand même une phrase que j'ai relevée, qui précise bien les objectifs de cette association et qui montre que c'est peut-être le seul vrai type de bibliothèque populaire. Le premier article de règlement écrit « Les objectifs de cette association sont la dissémination de savoirs utiles et distrayants. Et comme la politique concerne notre bien-être ici-bas et que la religion affecte notre bonheur dans l'au-delà, et que nous croyons qu'aucune institution politique ne devrait exister sans avoir été analysée, et qu'on ne devrait adhérer à aucune croyance sans en avoir discuté, nous décidons en conséquence d'acheter des ouvrages de toutes sortes, politiques et théologiques, ainsi que ceux qui traitent de l'histoire, de science ou de littérature. » Ceci qui m'amènera donc à ce qui pourrait servir de conclusion à ce que je viens de dire, ce qui m'amènera à dire que le débat autour des bibliothèques populaires, et pas seulement en Angleterre de toute évidence, a été de savoir s'il fallait instruire ou distraire, ou les deux. Et donc là, on a un exemple où on a une position très claire, à la fois d'instruction et de tolérance, et en même temps de délassement. Il y a beaucoup d'expériences, c'est un domaine extrêmement vaste, ça n'a pas été tellement étudié, sauf dans des thèses ou dans des petits articles, mais c'était tout à fait passionnant et je remercie Agnès qui a eu l'idée de ce colloque et de m'inviter à y participer.
Merci Marie-Françoise, on reviendra à toi tout à l'heure. Éduquer et instruire, vous vous souvenez que c'est la devise même de Pierre Jules Hetzel lorsqu'il crée, et on est en plein au même moment, en 1863, le magasin d'éducation et de récréation. Alors maintenant, on va passer à la Belgique, dont on sait bien qu'elle est régulièrement à l'origine d'initiatives françaises. Je le dis volontairement parce qu'on en a la preuve pour la Ligue de l'enseignement. C'est la Ligue belge qui a donné naissance à la Ligue française. Jean Massé s'est servi de l'expérience belge. Alors, qu'en est-il dans le domaine des bibliothèques populaires? Je passe la parole donc à Bruno Liezen de l'Université libre de Bruxelles, dont la création quasiment au même moment et tout un programme, puisque par rapport à l'université catholique de Louvain-la-Neuve, les libéraux, c'est-à-dire à l'époque au sens propre, ceux qui ont la liberté comme drapeau, ceux qui revendiquent la liberté de penser, créent cette université libre de Bruxelles, qui demeure une des très grandes universités européennes.
Alors, pour comprendre l'évolution de la bibliothèque populaire belge, même, on va dire, de toute institution culturelle en Belgique, il faut évoquer une caractéristique majeure de la société belge contemporaine, c'est en incluant la période du 19e jusqu'à pratiquement nos jours, c'est ce qu'on appelle la pilarisation, donc c'est un belgicisme. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est une organisation sociale, politique, culturelle qui englobe finalement tous les aspects de l'activité de la cité, de la société belge, autour de trois grands piliers qui correspondent aux grands courants idéologiques traditionnels qui se mettent en place ou préexistent pour les deux premiers. Il s'agit de, bien sûr, du pilier catholique d'une part, du pilier libéral d'autre part, et puis le troisième qui est plus jeune, c'est le pilier socialiste qui se développe dans les années 1880 en Belgique. Alors, ces trois piliers entretiennent des clivages, surtout sur deux axes. Tout d'abord, un axe philosophique, catholicisme versus laïcité. La laïcité étant défendue aussi bien par le mouvement libéral que par le mouvement socialiste. Mais ces deux mouvements n'ayant jamais réussi jusqu'à nos jours à s'unir pour créer un véritable front de laïcs, qui aurait été beaucoup plus puissant qu'il n'a pu l'être jusqu'à aujourd'hui face au courant catholique. Et puis l'axe politico-idéologique, bien sûr, socialisme versus capitalisme ou libéralisme économique. À ces axes vient bien sûr s'ajouter pour la Belgique le clivage communautaire linguistique qui en fait se fond dans ces trois piliers parce que le mouvement flamand qui est le mouvement revendicatif pour valoriser et développer la langue et la culture flamande dans un premier temps, ensuite, plus tard, seulement dans un second temps, des revendications d'ordre politique ou autonomiste, eh bien, on retrouve les trois piliers, il y a un mouvement flamand libéral, catholique et plus tard socialiste. l'importance d'ajouter que chacun de ces piliers a fait développer non seulement un parti politique propre, mais aussi tout un réseau d'organisations qui relèvent de sa sphère d'influence. Alors ce sont des écoles, des universités, des syndicats, des mutuelles, des hôpitaux, des associations de toutes sortes. La Belgique, quand elle adopte sa constitution en 1831, a mis au fronton de cette constitution quatre libertés fondamentales, dont la liberté d'association. Donc il y a énormément d'associations, un tissu extrêmement dynamique. Tout cela va jouer un rôle important dans le développement des bibliothèques populaires. Le mouvement des bibliothèques populaires en Belgique s'inscrit très nettement dans une structure pilarisée. Alors ça se développe, mais cette fois, c'est la France qui prend l'initiative, puisque le mouvement des bibliothèques populaires, au sens strict du terme, je ne vais pas revenir sur les créations ou les prémices de ces bibliothèques antérieurement, mais c'est clairement les années 1860, comme en France, et plus spécialement une circulaire du ministre de l'Intérieur belge datée du 13 septembre 1862, qui au fond ne va pas instituer une véritable intervention de l'État dans la question des bibliothèques populaires, mais simplement encourager le pouvoir communal, qui en Belgique a un poids important, qui a l'avantage d'être proche des citoyens, à créer ou encourager lui-même la création de bibliothèques pour le peuple, s'entend essentiellement les classes laborieuses, ouvriers, paysans, ce que d'aucuns appelleront aussi parfois avec une nuance de mépris les petites gens. Cette circulaire est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un copier-collé de la circulaire de Gustave Roulant à laquelle M. Molière faisait allusion. Alors ce mouvement, bien sûr, va se constituer autour de chaque pilier. Du côté libéral, on a également mentionné la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement belge, effectivement, sera un groupe de pression très important pour stimuler les bibliothèques populaires libérales. Il y aura des textes, des enquêtes qui seront publiées pour donner les grands axes de développement de ces bibliothèques. Par la suite, plutôt vers la fin du 19e, la Ligue d'enseignement va même instituer un service de bibliothèque circulante, tout à fait moderne pour les normes de l'époque. Il y a aussi en Flandre le Willemsfonds, qui lui a une action uniquement sur le territoire flamand. Et la Ligue d'enseignement, elle avait une ambition nationale. Mais finalement, les deux vont s'associer pour pénétrer davantage les régions flamandes, qui sont quand même aussi un bastion de l'Église catholique. À Liège, on a la Société Franklin, en mémoire à Benjamin Franklin. Ce sont toutes des choses qui ont des échos en France également, qui aura également un rôle, comme disait Noé Richter, de société de propagande, donc pour stimuler et créer indirectement des institutions de lecture. Bien sûr, ces sociétés, très naturellement, se développent essentiellement dans les régions industrialisées de la Belgique, Liège, Charleroi, notamment avec les charbonnages, les aciéries, aussi dans les régions de l'industrie textile assez développée, par exemple à Gand ou à Verviers à l'époque. On a par exemple des sociétés qui sont créées par des industriels philanthropes, comme un peu partout, mais aussi par des cadres d'entreprise, par exemple les charbonnages de Marimont et Bascou dans le Hainaut. Les ingénieurs de ce charbonnage instituent une bibliothèque pour les travailleurs des mines. On a également des sociétés d'ouvriers, et notamment une société des amis de l'instruction qui a été fondée en 1879 par 25 ouvriers, donc là aussi une influence. Probablement une société sœur de votre propre association, même si au niveau des archives, on n'a jamais retrouvé de traces de connexion concrète entre ces deux associations. Alors, par rapport à cette effervescence libérale, on aura alors une réaction catholique. Les catholiques avaient déjà un certain nombre de bibliothèques qui existaient déjà au début du 19e siècle. C'est les bibliothèques catholiques du 19e siècle sont souvent appelées bibliothèques choisies, bibliothèques catholiques, rarement bibliothèques populaires. Et en fait, on se rend compte qu'elles avaient souvent une section payante qui en réalité était destinée au public des paroissiens bourgeois, classe moyenne essentiellement. Et elles ont souvent eu du mal à créer une section populaire gratuite destinée alors aux gens du peuple. Donc il y a parfois une ambiguïté, on est devant parfois des institutions dont on ne voit pas très bien quel public elles visent exactement. Et en tout cas, il y a souvent une ségrégation entre ces deux publics. Alors bien sûr, ici, il y a une réaction parce que toutes ces bibliothèques paroissiales ou de congrégations sont très dispersées. Donc les catholiques, face à la menace du poison libéral qui se répand de plus en plus dans leur contrée, vont créer elles-mêmes des bibliothèques dans le but de recristianiser ou d'arracher aux démons toutes ces âmes en perdition. Il y aura une création de bibliothèques, de sociétés d'encouragement qui sont en fait calquées sur le modèle des associations libérales. Par exemple, au Wilhelmsfonds libéral flamand, les catholiques vont répliquer avec un Davidsfonds qui utilisera les mêmes moyens d'action, mais évidemment avec un contenu relativement différent. On se rend compte que sur certains points, ces bibliothèques se ressemblent. Elles veulent arracher tout l'ouvrier aux distractions, à l'alcoolisme, à tout ce qui peut les perdre moralement ou intellectuellement. Enfin, le pilier socialiste qui se développe donc essentiellement après 1885 avec la création du Parti ouvrier belge, qui changera plus tard de nom et deviendra le Parti socialiste belge. Alors ce parti en fait a aspiré lors de sa création toute cette génération de jeunes libéraux, selon l'expression, des libéraux radicaux, progressistes, qui au sein du mouvement libéral étaient ceux-là même qui avaient initié toutes ces sociétés d'éducation populaire. Donc on va retrouver au sein du pilier socialiste exactement les mêmes techniques, les mêmes méthodes qui était initié par le mouvement libéral. Qu'on a un double effet, on va dire, de miroir, tant de la part du pilier catholique que du pilier socialiste. Par la suite, les socialistes vont évoluer dans ce domaine, en ce sens qu'ils vont, surtout après, dans les années 1910, commencer à repenser la bibliothèque populaire pour en faire plutôt des bibliothèques ouvrières, des bibliothèques destinées à former les militants, à créer une élite ouvrière qui peut remplacer l'élite d'origine des grands bourgeois, des intellectuels libéraux à l'origine. Et donc, cette structure en trois piliers va en fait avoir pour effet de donner au modèle des bibliothèques populaires une pérennité jusque pratiquement dans les années 1970. Malgré la loi sur la bibliothèque publique de 1921, en effet, ce modèle de petite bibliothèque marquée idéologiquement va rester très vivace et on aura beaucoup de mal à réformer ce mouvement des bibliothèques pour créer un véritable service public de lecture neutre et pluraliste comme nous le connaissons heureusement de nos jours.
Voilà. Merci pour cette intervention qui nous permet de voir effectivement, avec l'exemple anglais et l'exemple belge, combien il y a une grande porosité. Il va de soi que, j'en ai pas parlé dans mon introduction, on ne pouvait pas tout évoquer, mais le courant catholique a évidemment eu une influence très profonde en France. L'œuvre des bons livres est née en 1820, elle a essaimé à la fois en France, dans la plupart des diocèses, en Belgique, en Espagne, en Italie, avant de passer au Québec et même aux États-Unis. Les bibliothèques paroissiales sont apparues en 1839. Tout cela a débouché sur ce qu'on a appelé à partir de 1936 les bibliothèques pour tous, car au moment du Front populaire, les catholiques en quelque sorte ouvrent leurs portes, je ne sais pas s'ils ouvrent aussi leur cœur, à l'ensemble de la population. Le changement de nom indique bien une volonté de ne plus se replier sur soi-même, mais d'être à l'écoute. On a évoqué aussi le pilier, évidemment, libéral. Et puis, vous avez évoqué la personnalité de Noé Richter, et je vous en remercie, simplement pour rappeler qu'il avait été à l'origine, en dehors des nombreux livres qu'il a publiés, de la revue d'histoire de la lecture et de ses institutions, qui a eu une vingtaine de numéros extrêmement importants et qu'on peut trouver dans les bibliothèques. Alors maintenant, on va s'intéresser à un cas d'espèce. Annick Guinry va en effet nous parler de la bibliothèque populaire de Choisy-le-Roi, qui naît en 1877, dans une période d'affrontement extrêmement important entre les monarchistes, qui, dans une France républicaine, qui pour la première fois s'est donnée une assemblée nationale, qui est d'ailleurs devenue chambre des députés en 1876, à majorité, à grande majorité républicaine, mais le Sénat est encore monarchiste, le président de la République est monarchiste, le Conseil des ministres l'est également. C'est dans ce contexte où, effectivement, on voit naître un certain nombre de bibliothèques populaires dont vous allez nous dire si, au fond, elles s'inscrivent et si elles entendent participer à ce combat qui débouchera avec le départ de Mac Mahon 3 ans plus tard sur une France totalement républicaine, Gambetta devenant le symbole de cette république républicaine. Annick Guinry, la bibliothèque populaire de Choisy-le-Roi.
Donc moi je vais rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de l'origine d'une bibliothèque précise, qui ne s'appelait pas bibliothèque à l'époque. Je ne suis pas universitaire, je suis l'ancienne directrice du réseau de bibliothèques de Choisy, qui maintenant a encore changé. Je vais vous dire un peu l'origine de cette recherche. En fait, c'est un concours de circonstances. Il se trouve que j'ai donc pris ma retraite de ce réseau en 2013. Et ce réseau était composé de 4 bibliothèques, 2 bibliothèques de quartier, une bibliothèque jeunesse qui a connu ses heures de gloire avec la bibliothèque de la joie par les livres. C'était vraiment un modèle de bibliothèque pour enfants, chose qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, de distinguer les enfants du public adulte. On a complètement changé de modèle, mais à l'époque, c'était vraiment un exemple. Et une bibliothèque discothèque adulte. Donc, quand la ville a décidé de créer une nouvelle médiathèque pour mieux correspondre à l'évolution des pratiques, l'ouverture au numérique, etc., notre réseau était vieillissant. Et donc, comme moi, j'étais un peu la personne qui fermait les lieux, on m'a fait un peu une commande, mais qui était très modeste au départ. On m'avait dit, bah, écoute, pour la fête de fermeture, va peut-être que tu nous fasses un petit papier sur les origines, un petit historique, etc. Je savais que dans la salle où on se réunissait, il y avait bien vaguement effacé Cercle Populaire. Je savais qu'il y avait une histoire, mais je m'y étais pas particulièrement intéressée. Encore que l'histoire, ça m'intéresse beaucoup et que j'ai eu l'occasion de croiser Monsieur Mollier sur l'histoire de la lecture, du lectorat. Enfin, j'ai toujours été intéressée par l'histoire, ce qui a quand même facilité les choses. Donc voilà, en fait, c'est une commande qui, au départ, avait pris la forme d'un fascicule qu'on a largement distribué à notre public au moment de la fermeture. Donc on a aussi une société d'histoire dans la ville qui était très intéressée. Mais bon, voilà, ça devait s'arrêter là. Et puis, il se trouve qu'au congrès de l'Association des bibliothécaires de France de la même année, je rencontre le bibliothécaire de Montreuil qui me dit, voilà, je suis en train de faire l'historique, un colloque, etc. Bon, ah, je dis, ben, ça, c'est incroyable, moi, je suis là-dessus. Voilà, et ça s'est trouvé comme ça. Alors, il était trop tard pour que je participe au colloque, j'ai participé comme public. Mais il a fallu que j'écrive, donc voilà. Je suis sûre qu'il y a plein de choses complètement inconnues à Ivry, n'importe où, qu'on devrait découvrir. Voilà, donc je vais vous parler un peu de ce cercle populaire d'instruction et d'initiative. Quand j'ai retrouvé cette histoire, j'étais frappée par, je dirais pas des similitudes, mais une sorte de... Bien sûr, il y a des caractéristiques propres à l'époque, au fonctionnement, mais j'ai retrouvé des choses au niveau du fonctionnement, je dirais de l'action culturelle, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, qui sont étrangement modernes. Alors ce cercle populaire, comme vous l'avez dit, est né un peu dans la tour, enfin avant la tourmente, hein, le 14 février 1877. C'est un maire adjoint de Choisy-le-Roi qui s'appelle Victor Meunier, qui a eu cette idée, qui était journaliste dans un journal qui s'appelait Le Rappel, qui était lié à la famille de Victor Hugo. Et dès le début, cette bibliothèque a été parrainée par le grand poète Victor Hugo. D'ailleurs, dans le bouquin, vous avez une lettre d'encouragement qu'on a encore dans la ville. Il y aura toujours un œil bienveillant sur ce lieu, de même que d'autres auteurs très connus qui ont fréquenté ce lieu. Je vous ai parlé de Gambetta, qui apparemment est passé par là, Hector Malot, Erckmann Chatrian. Enfin, c'était pas rien quand même. Dès l'inauguration, ça a été un succès phénoménal puisqu'il y avait 500 personnes, des adhésions immédiates, à peu près 300 adhésions, des dons de livres, etc. et des statuts assez exemplaires puisqu'on retrouve dans les principes de ces statuts des choses assez intéressantes dont on discute aujourd'hui par rapport à la démocratie participative, etc. C'est-à-dire que les membres du conseil d'administration, ils ne pouvaient pas stationner là pendant des années, ils étaient révocables. Bon, des choses amusantes comme par exemple les apprentis avaient le droit de participer mais avec l'autorisation des parents. Et au niveau du fonctionnement, tout de suite, une sorte de conseil d'administration, ils se réunissaient toutes les semaines, le samedi soir après le travail. Ils ont toujours eu en tête, ça rappelle tous les principes d'éducation populaire, cette idée d'instruction pour tous et par tous, et dans laquelle le progrès moral et culturel était toujours associé au bien-être physique. Vous allez voir comment. Quand ils discutaient, il y avait toujours trois sujets qui les préoccupaient. D'abord, ils parlaient de l'actualité littéraire, scientifique, donc ils se lisaient des poèmes, ils commentaient l'actualité. Deuxièmement, il y avait un axe, justement, corps-esprit. Ils ont été jusqu'à créer des cours de gymnastique, de tir, création d'une bibliothèque. La bibliothèque étant une partie des activités. Des cercles populaires étaient plus larges que le prêt de livres proprement dit. Un musée local avec tout un tas de choses, voilà. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le troisième axe ou pilier, c'était le souci de développement du territoire, de la commune, afin d'encourager l'initiative citoyenne, avec vraiment une volonté forte de participation de la population. Tout ce fonctionnement a duré à peu près de cette façon-là jusqu'à la veille de la guerre de 14. Évidemment, après, c'est un peu le cataclysme. Outre ce conseil d'administration, quelles étaient les activités? Il y avait de nombreuses conférences avec un appareil à gaz, chlorhydrique, il y avait des projections et des conférences sur les sujets de l'époque, par exemple la problème du phylloxéra, le commerce dans les colonies, le télégraphe, l'électricité, enfin tous les problèmes de l'époque, des discussions, etc. Il y avait, par exemple, en 1903, jusqu'à deux conférences par mois, ce qui était quand même assez impressionnant. Et il y avait toujours un peu cette idée de savoir à la portée de tous. Alors, il y avait la partie bibliothèque, qui était alimentée principalement par des dons de livres, et puis petit à petit par des animations, ce qu'on appellerait des animations, organisation de tombola, des pièces de théâtre, des sorties, des fêtes, pour pouvoir acheter des livres. Un bibliothécaire, alors j'ai pas fait assez de recherches pour savoir quels étaient les critères de nomination, enfin de l'installation de ce bibliothécaire, mais il y avait quand même l'idée d'installer quelqu'un qui soit là pour conseiller. Donc une ébauche de politique culturelle, si on peut dire, une salle de lecture confortable, donc à la fois l'idée de la lecture sur place et du prêt, bien sûr, il y avait du prêt. Alors c'était payant, maintenant je ne me rends pas compte du prix de l'époque, c'était de l'ordre de 5 francs.
On va dire ça tout fait.
Autour de 1900, ça équivaut à 25 euros d'aujourd'hui.
D'accord, 5 francs, et il y avait je pense 1 franc 50, peut-être pour le prêt en plus. Il y avait l'adhésion.
5 francs. C'est la revendication des ouvriers autour de 1900, gagner 5 francs par jour.
Voilà,
la thune par jour. Thune, c'est 5 francs. C'est la pièce de 5 francs. Donc c'est facile à retenir. C'est à peu près, vous le disiez, par 5, donc 25 euros. Donc c'est une somme à la fois peu importante et en même temps, c'est une journée de travail d'un ouvrier. Donc
C'est pas n'importe quoi. Il y avait même, d'ailleurs, ça me rappelle des bibliothèques aujourd'hui, il y avait même un piano dans la salle. Bon, tout ça marche très bien. Et puis, il arrive la guerre de 14. Alors, je passe les adresses parce que ça ne vous dirait rien, mais c'est une bibliothèque qui a beaucoup déménagé. Enfin, ce cercle a beaucoup déménagé. Donc, en 1914, évidemment, ce cercle populaire est devenu un dispensaire, accueil des blessés, etc. Donc, ça a beaucoup circulé dans ce qui est maintenant une école. Dernier lieu, c'est un commissariat. Alors, il y a une reprise après la guerre très importante où il y a de plus en plus de livres. Je crois qu'on notait 7000 livres en 1920, ce qui est quand même énorme. Ça marche vraiment à fond. En 1930, c'est vraiment quasiment le summum. Et ce qui est très intéressant dans les années 30, c'est qu'il y a des achats de livres pour enfants. Alors, je me suis demandé si ce n'était pas l'effet Babar, parce que dans les années 31, il y a quand même le Père Castor, Mickey. Alors, je ne sais plus exactement la date de Mickey.
34,
mais je sais que 31, c'est Laurent de Brunhoff, c'est les ateliers.
Mais il y a L'Heure Joyeuse en 24.
Hein, L'Heure Joyeuse en 24 ou 25. Enfin, bon, voilà, il y a un petit contexte de sensibilisation à la lecture des enfants, et je pense qu'ils en ont, ils avaient le souci d'acheter des livres pour enfants. Tout ça marche très bien. D'après les chiffres, 40% d'emprunteurs sur la ville. Quand on voit un taux pareil, on est absolument sidéré. Et j'ai oublié de dire aussi, vous avez dû le dire, qu'au niveau des jours d'ouverture, évidemment, c'était surtout ouvert le soir. Ça a été ouvert un peu la journée pour les enfants et aussi le dimanche matin, pour faire concurrence à l'église. Ça, c'est connu. Alors, les années 40 arrivent, malheureusement, et vous avez la fameuse liste auto des livres indésirables qui circulait, et donc le Cercle Populaire a dû publier cette liste. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'en fait, pour faire vivre cette bibliothèque, les élus de l'époque ont décidé de la municipaliser. Donc en 1943, cette bibliothèque a été municipalisée, ce qui est un bien. C'est à cette date-là qu'a démarré un peu la deuxième, la grande période de la bibliothèque publique, en tout cas choisie, mais je pense ailleurs. En 1950, c'était la 8e bibliothèque par son importance du département de la Seine. Choisy a quand même été assez en avance au niveau des bibliothèques publiques de ce réseau, hein, puisque bon, en 1960-63, alors ça paraît dérisoire maintenant, mais bon, elle a déménagé 10 000 fois. Le commissariat de l'époque était à l'arrière de la cathédrale.
Absolument.
Et la bibliothèque était au-dessus du commissariat.
Oui, parce qu'en 1905, les catholiques ont refusé les associations cultuelles, n'ont pas voulu, par conséquent, gérer eux-mêmes la cathédrale, et du coup, l'État l'a nationalisée. Voilà. Mais il ne l'a pas nationalisée pour punir les catholiques, comme les catholiques ont essayé de le faire croire, mais parce que les catholiques ont refusé de jouer le jeu, comme en Allemagne ou aux États-Unis, de la gestion par les associations catholiques des biens cultuels. Et du coup, en effet, Choisy-le-Roi était connu pour cette particularité, puisqu'il y avait à la fois dans le même bâtiment qui était l'ancienne église et la cathédrale
et
le commissariat de police, ce qui quand même est assez ambigu.
Et j'ai des collègues qui ont connu ce lieu-là dans les années 60.
Oui, bien sûr, moi je l'ai connu, absolument, bien sûr.
Et on voit vaguement commissariat, c'est incroyable. Quoi.
Oui, le commissariat a dû déménager, mais bien après 70.
Voilà. Et alors donc la bibliothèque adulte, après, s'est installée dans des baraquements dans le parc de la mairie. Alors, c'était le fin du fin, 263 mètres carrés. Très vite, il y a eu une discothèque, ça a été une des premières discothèques de la région parisienne, avec 2000 disques. Un coin enfant, qui après est devenu la bibliothèque pour enfants de Choisy, comme je vous l'ai dit, qui était la deuxième après la grande bibliothèque de Clamart, qui était vraiment un modèle. Et en 85, une nouvelle bibliothèque pour adultes en dur au moment des années langues, etc.
Merci, parce que cet exemple très concret nous permet de voir l'articulation entre le mouvement français, le mouvement anglais et le mouvement belge. On a 10 minutes, moi je propose de passer la parole au public, poser les questions que vous avez envie de poser à l'un ou à l'autre de nos intervenants.
Sur les bibliothèques anglaises, comment elles étaient financées? Est-ce que c'était vraiment
très variable? C'est très variable, c'est-à-dire qu'en principe, il peut y avoir une inscription au départ et puis des cotisations régulières, ou alors au contraire des cotisations systématiques. C'est difficile de donner une réponse claire. Moi, je voudrais embrayer sur quelque chose qui m'a frappé, parce que vous en avez parlé, c'est le problème des dons. C'est l'éternel problème des dons. Alors évidemment, ça permet de ne pas faire payer trop cher parce qu'il y a des livres dans la bibliothèque, mais c'est pas n'importe quel. C'est malheureusement pas souvent des livres qui sont sans grand intérêt. Mais c'est très variable. Avant que ça soit vraiment financé, ça a été très long. Et c'est le financement des bibliothèques publiques quand elles ont été créées qui a fait que ça s'est pas développé très vite. Parce qu'il fallait un vote de la municipalité pour accepter de consacrer un demi-penné, c'était rien du tout, au financement des bibliothèques.
Quelle était la position de l'aristocratie britannique?
L'aristocratie britannique, elle était tout à fait en dehors de ça. C'était les classes moyennes. L'aristocratie avait ses bibliothèques, ses collections personnelles dans les châteaux, dans les grandes résidences, etc. Mais à mon avis, une certaine indifférence.
Ce qui est différent du cas français, où l'aristocratie catholique, à la différence évidemment de l'aristocratie britannique qui est plutôt anglicane, l'aristocratie catholique en France participe abondamment au réseau des bibliothèques catholiques et d'encouragement à la lecture. Bien sûr, dans un but d'édification. Il s'agit de ne pas lire n'importe quoi, plutôt Fabiola ou l'Église des catacombes, du cardinal Wiseman, plutôt que Les Misérables de Victor Hugo, mais l'aristocratie est très présente dans la création et le développement de ces bibliothèques.
Peut-être pour compléter ce que tu disais, Marie-Françoise, en France, la bibliothèque est dans un lieu très surveillé, donc on ne peut pas avoir de fantaisie, de café ou quoi que ce soit. J'ai retrouvé un rapport d'un inspecteur dans la Drôme qui se plaint justement qu'une bibliothèque populaire est pour le moment dans un café. Et ce n'est pas du tout recevable comme idée, on est pourtant déjà au début de la Troisième République, parce que c'est un lieu de sédition. Ça va peser très fortement sur les premières bibliothèques populaires en France, sous l'Empire dit libéral, comme sous la Troisième République, parce qu'on a peur que ces gens qui lisent soient des gens qui sont en train d'échafauder des idées terribles. Alors, là, c'est surveillé et ça ne pourra pas être dans un autre lieu.
Alors le problème, c'est que les coffee houses n'ont rien à voir avec les pubs. Ouais. Donc c'est au contraire, ce sont des lieux où on est plus au calme pour lire. Et c'est le café, c'est pas du tout l'alcool, il n'y a pas les...
Mais même ça déjà, ça fait très peur, parce qu'il ne faut pas que ce soit...
Ah oui, c'est drôle, alors que ça a été...
C'est comme ça que la bibliothèque des années d'instruction du 3e arrondissement, celle-ci, a fermé dans un premier temps, parce qu'ils étaient reçus à la mairie, et qu'ils osaient discuter devant la mairie. Rien que le fait de discuter déjà entre eux, plutôt que d'aller juste chercher à lire, c'était considéré comme...
Mais il faut dire qu'en France, c'est vrai que les cafés, et notamment dans la partie sud, c'est-à-dire au sud de la Loire, joue un rôle extrêmement important dans la radicalisation de la population. Ouais. Et le café sert souvent effectivement d'abri aux sociétés locales, sociétés populaires, matrice des cercles qui vont devenir l'embryon du parti radical et ensuite du parti socialiste, voire du parti communiste, voire des anarchistes. Ça a toujours été des lieux effectivement de discussion, donc très surveillés. Heureusement pour l'historien, nous avons beaucoup de documents, tant pis pour les gens de l'époque qui avaient des yeux et des oreilles qui les voyaient écouter. C'est pas... Oui. Madame.
Une question sur... on voit que c'est un mouvement de fond en Europe, dans les différents pays. Pour autant, la bienveillance à l'égard de ces bibliothèques, elle est de nature différente, très surveillée ici, peut-être un peu moins en Angleterre. Donc, quel est le fait unificateur qui fait qu'avec des différences qu'on retrouve en Europe, il y a ce mouvement de fond qui est à peu près contemporain, puisque vous avez tous dit que la date centrale est autour des années 1860, à votre sens?
J'ai pas l'impression d'un contrôle très strict dans certains. Enfin, c'est très variable suivant les types de bibliothèques. Il y a un contrôle très strict ou il y en a pas du tout. L'autogestion, quand même, de certaines bibliothèques est assez fascinante.
Et l'Angleterre, pas... ne l'oublions pas à cette époque-là, est le refuge de tous les réfugiés politiques. C'est pas pour rien que Karl Marx et Friedrich Engels vivent à Londres. La tradition britannique jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour rien si aujourd'hui certains s'étonnent ou se plaignent que les radicaux islamistes soient à Londres, mais ça c'est vraiment une tradition britannique qui remonte au fond à l'origine même de la démocratie.
Et je reviens. Alors j'ajouterais quelque chose que j'ai pas du tout évoqué, c'est que c'est un pays du livre, c'est la Bible.
Protestant.
Donc au départ la lecture se développe, il faut pouvoir lire la Bible, un pays protestant.
En anglais.
En anglais bien sûr.
En anglais.
Donc la lecture a priori c'est destiné justement à pouvoir lire la Bible, développer l'alphabétisation à ça comme objectif prioritaire. Peut-être c'est une des raisons d'une tolérance plus grande, mais j'ai pas le souvenir de bibliothèques qui aient eu des groupes. Enfin, j'ai vraiment pas.
J'ai pas assez... La France est un pays très particulier. Depuis l'Ancien Régime, il y avait un corps de censeurs, il y avait évidemment la police surveillait le livre. Pendant tout le 19e siècle, on a strictement le même régime. Il existe des inspecteurs et des commissaires de la librairie qui vont dans les imprimeries, qui vont dans les librairies, qui vont dans les maisons d'édition, qui surveillent tout. Cela ne disparaît qu'avec la grande loi libérale de 1881, donc vraiment à la toute fin du 19e siècle. Donc on est dans un pays de surveillance constante, avec simplement des périodes de liberté, évidemment au moment des révolutions, 1830-1835, 1848-49, et puis 1870-71, le reste du temps, c'est vraiment la surveillance. En ce sens, c'est vrai que l'Angleterre a quand même une tradition, ça ne veut pas dire que la police ne regarde pas ce que font les immigrés.
Non, mais c'est surtout, la censure s'exerce presque plus dans les bibliothèques, ces fameuses circulating libraries, ces bibliothèques de prêt, qu'on peut traduire bibliothèques circulantes, puisqu'on utilise l'expression, qui elles ne sont pas du tout populaires, qui sont au contraire middle class.
Absolument,
et qui sont extrêmement surveillées. Ouais. Et en particulier, il y en a une d'entre elles sur laquelle qui m'a beaucoup fascinée, qui a joué un rôle incroyable dans l'édition, dans la mesure où on trouve dans les correspondances entre les éditeurs et les auteurs des remarques du genre « Cette bibliothèque était dirigée par un certain Charles Mudie. Si Mudie ne veut pas prendre votre livre, c'est grave, ou bien alors au contraire, on prévenait l'auteur, Mudie ne veut pas prendre votre livre, donc on ne peut pas nous l'éditer, etc. » Ça a été un pouvoir absolument incroyable.
La Belgique, dans ce cas-là...
Je voudrais réagir justement là-dessus, oui, parce que c'est vrai qu'en Belgique, comme en Angleterre, il y a une grande liberté d'opinion,
aussi,
donc la censure... Vous avez des bibliothèques populaires et quasi inexistantes. Par contre, ce qui existe et qui est très présent, c'est l'autocensure des organisateurs des bibliothèques. Il ne faut pas oublier que ces bibliothèques sont créées et gérées par la bourgeoisie, pour schématiser, et que donc ils veillent à ce que le contenu des bibliothèques soit le plus conforme possible à leurs opinions, idem pour les catholiques ou les socialistes.
Et là, pour le financement, alors justement, dans ce cas-là, c'est la bourgeoisie qui finançait ou c'était aussi des systèmes de coopératives ou de cotisations?
On a les deux, mais le modèle dominant, c'est quand même le cercle association bourgeoise qui apporte par des dons, des cotisations et qui aussi essaye d'obtenir des subventions des administrations communales, surtout dans les grandes villes qui sont du XIXe siècle essentiellement tenues par le Parti libéral, la grande fureur évidemment des catholiques qui par réaction vont reconquérir ces administrations. Donc même les bibliothèques communales belges sont colorées idéologiquement et donc il y a un contrôle sur les lectures. Maintenant, si je peux ajouter un point, c'est que par rapport à ce contrôle social de départ qui s'exerce au niveau, je veux dire, du catalogue, il y a une réaction de la part des lecteurs qui va aller par la force des choses un peu à l'encontre de toutes ces intentions édifiantes, moralisatrices, ou d'instruire le peuple pour en faire des ouvriers plus productifs ou des paysans plus productifs.
En France,
c'est que les lecteurs vont exiger non pas des lectures instructives ou édifiantes, mais des lectures de distraction. Et il y aura une pression de la demande, comme
dans
en France,
toute à Genève, comme à Paris, comme à Londres, et partout. En France, et je vais terminer par là, on a quand même, mais il y a peu de travaux, donc la documentation manque, un certain nombre de cabinets de lecture strictement ouvriers, dans l'entourage de Marx notamment, c'est-à-dire avant 1848, sont des cordonniers, des tailleurs allemands, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de ce cabinet de lecture sur lequel il n'y a pas eu vraiment de travail. Du côté des fourriéristes, on a aussi, à la fin de la monarchie de juillet 1845-1848, un certain nombre de cercles dans lesquels il est attesté qu'il y ait effectivement des ouvriers. Donc là, on est plutôt dans le cadre d'une autogestion. Et je terminerai par le rapport que le commissaire de police, l'inspecteur Gaillard, envoie au préfet de police lors de la publication des Misérables à Paris. On vient de mettre en vente les tomes 5 et 6. Il dit à son supérieur, ne vous réjouissez pas parce que le nombre de volumes vendus est inférieur aux tomes 3 et 4 et aux tomes 1 et 2, parce que les ouvriers parisiens se cotisent pour acheter les volumes, les lire ensemble, et c'est le dernier qui les gardera. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il considère que Les Misérables est un chef-d'œuvre de littérature socialiste. Absolument. Je trouve d'une intelligence exceptionnelle comme commentaire.
Ça rejoint la question que je voulais vous poser. Quelle était la position des auteurs? C'est-à-dire, est-ce que des gens comme Hugo donnent de leurs ouvrages aux bibliothèques?
Systématiquement. Je pense que ça va être abordé par la deuxième table ronde. Donc, on va juste, comme aux échecs, on va roquer et donc demander à Agnès Sandras et Étienne Nadeau de venir.
Donc non, je vous présente Étienne qui est chartiste, élève conservateur bientôt en poste au 1er juillet. On ne sait pas encore où. Quant à moi, je suis conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, chargée des collections d'histoire de France. Je suis venue dans ce lieu par hasard lors des journées du patrimoine il y a quelques années. Voilà, comme tout le monde. Mais ce qui était différent, c'est que j'étais en train de changer de carrière, puisqu'avant j'étais agrégée d'histoire et que j'allais justement devenir conservatrice et que j'ai flashé pour ce lieu, il n'y a pas d'autre mot. Et ça s'est transformé comme ça. J'ai fait des recherches aussi sur ce lieu à l'occasion de mon mémoire de conservatrice. Et puis j'ai continué, d'où le livre là avec certains auteurs qui sont ici aujourd'hui, qui est une étape importante, je crois. Alors justement, je voudrais souligner qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont importantes. Vous ne vous en rendez pas compte, peut-être. Vous avez peut-être simplement le sentiment d'être dans un endroit délicieux, mais c'est beaucoup plus que ça. Je voulais le signaler, le souligner, et on ne le dira jamais assez. Première chose qui est extrêmement importante, c'est que vous êtes ici dans un musée, finalement, d'histoire de la pratique de la lecture. Et qu'on n'a pas d'équivalent en France, et peut-être même en Europe, je ne sais pas. Parce que ici, vous avez les livres tels qu'ils ont été feuilletés par les lecteurs, et ils n'ont pas été désherbés, comme ils peuvent l'avoir été, dans les bibliothèques municipales. Donc, par curiosité, vous regarderez, je dis toujours que là, quelque part par là, vous avez par exemple 4 exemplaires du Cocu de Paul de Kock, ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans une bibliothèque municipale en France. Et c'est très important parce que ça veut dire que les lecteurs ont tellement aimé ce livre qu'on pouvait trouver par exemple dans des cabinets de lecture qu'ils lui ont demandé, ça c'est déjà important, mais ça veut dire en plus que la bibliothèque l'a accepté. Et on est dans cette thématique de délassement qu'on évoquait tout à l'heure, qui est très importante dans ce type de bibliothèque. C'était accepté alors que ce ne l'était pas dans les bibliothèques municipales. Et on a de la même manière là-bas plusieurs exemplaires des mêmes romans d'Émile Zola. Émile Zola qui n'était pas accepté dans toutes les bibliothèques municipales à l'époque, déjà. Et en plus, si on en avait un exemplaire, c'était déjà bien. Alors qu'ici, on n'hésitait pas à acheter 3 fois, 4 fois nana. Et en plus, on l'a dans des éditions différentes, bien entendu. C'est au fil de l'eau, on achète telle édition parce qu'elle est moins chère. Donc ça, c'est déjà très important. Musée aussi, par exemple, si on ouvre un livre, on va voir qu'un passage a été souligné. On va voir qu'il y a des petites mains qui l'ont usé, qui ont taché, qui ont renversé du café, etc. Donc tout ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut que la bibliothèque conserve, évidemment, ne remplace pas les livres, mais conserve bien les exemplaires tels qu'ils sont, avec leurs usures, leurs taches, leurs fatigues, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un musée exceptionnel de l'histoire de la bibliothéconomie. Et c'est pour ça que ce livre a été intitulé « Des bibliothèques populaires à la lecture publique ». Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, à plusieurs reprises, le terme « populaire » a été jugé bientôt pratiquement insultant. Quand on dit « c'est populaire », on le dit parfois avec une petite grimace. Et c'est ce sur quoi a joué la lecture publique, finalement, dans les années 1920-1930, pour dire, voilà, nous, on fait du neuf, et nous, on s'intéresse à tout le monde, pas seulement au peuple. On ne le relègue pas à certaines lectures, on ne le relègue pas à des petits endroits poussiéreux, on lui donne des salles claires, etc. Donc c'est aussi important pour ça ici, c'est un musée des pratiques bibliothéconomiques parce que, comme l'a dit tout à l'heure Annick également, eh bien dans ces bibliothèques populaires, on a tout inventé. Il fallait tout mettre en place puisque jusque-là, on ne prêtait pas d'ouvrage à tout le monde. Donc il a fallu inventer des catalogues, des cartes de lecteurs, etc., etc. Donc c'est vrai que tout a été inventé là-dedans et que pendant longtemps, la bibliothèque publique a fait semblant, au contraire, de tout inventer, de dire « Ah, on a inventé des cahiers de suggestions ». Pas du tout. Ça existait déjà dans les bibliothèques populaires au XIXe siècle. « Ah, on invente des soirées de lecture ». Pas du tout. Les bibliothèques populaires en faisaient déjà des conférences, des soirées de lecture, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans les années 1860. Donc c'est très important pour ça aussi. Et c'est très important aussi pour une autre histoire plus large, qui est l'histoire de l'éducation et de l'instruction, et aussi l'histoire des associations, puisque je vais en parler. Le fondateur de ces bibliothèques populaires, Jean-Baptiste Girard, est un pro des associations. Il a d'ailleurs fait de la prison à cause de ça, et il sait créer des associations. La dernière activité de sa vie, ça sera de créer une caisse de retraite pour les ouvrières, par exemple. Donc, c'est très important. Et il se trouve que hier, je recevais à la Bibliothèque nationale, je faisais une conférence pour des gens qui travaillent dans le domaine social. Et ces travailleurs sociaux, j'avais des cadres, par exemple, du Secours catholique, etc., étaient très intéressés par l'histoire des bibliothèques populaires, parce que finalement, les luttes pour établir les premières bibliothèques populaires leur rappellent leur lutte aujourd'hui. C'est-à-dire ce constant balancement entre un intérêt de l'État pour ce qui se fait, une récupération de l'État, il faut recréer à côté, etc. Et ce mouvement total, vous voyez, de balancement. On crée, on défait, on recrée, etc. Et il me disait, finalement, ça nous apporte beaucoup de savoir comment se sont créées les premières bibliothèques populaires. C'est pour nous une expérience aujourd'hui. Je vous signale que pas loin d'ici, Nuit Debout fait une expérience actuellement qui est très intéressante, qui s'appelle Biblio Debout. Alors qui est très différente des bibliothèques populaires, mais quand même ça interpelle aussi de voir qu'on a toujours des expériences qui se mènent aujourd'hui autour de la façon dont on peut se mettre à plusieurs autour d'un livre, s'associer autour d'un livre. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'aurais l'intention, si tu en es d'accord Étienne, de vous raconter un petit peu les débuts, on les a évoqués tout à l'heure, les débuts de cette bibliothèque des Amis de l'Instruction qui a servi de modèle pour toutes les bibliothèques populaires, on vient de le dire, françaises, mais aussi italiennes, etc., etc. Les Italiens sont venus en France voir ce qui se passait. Et puis peut-être vous raconter justement ces premières expériences bibliothéconomiques, comment on a fait quand on s'est posé la question, tiens, il y a un lecteur qui ne rend pas son livre, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple. Bon, aujourd'hui, c'est évident, hein. Paf, une amende. Bon, mais on s'est posé davantage de questions que ça. Voilà. Donc, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Alors, il y a d'abord, autour de cette création de ces bibliothèques des amis de l'instruction du 3e arrondissement, vous voyez bien dans le titre, toute une tradition révolutionnaire sur laquelle je ne vais pas revenir, mais ce qui est important à dire, très très important, c'est qu'on a un moment exceptionnel de grâce dans l'histoire qui est que vous avez des gens d'origine extrêmement diverse, des ouvriers, des gens qui sont les fondateurs de l'Association internationale du travail, l'AIT, qui habite rue des Gravilliers. Vous avez des fourriéristes, vous avez des saint-simoniens, vous avez des gens de la haute bourgeoisie, vous avez également des francs-maçons, beaucoup de francs-maçons, tu en parleras peut-être Étienne tout à l'heure, on les retrouve partout, à l'origine de toutes les premières bibliothèques populaires, qui vont s'unir dans ce moment de grâce pour fonder ces premières bibliothèques populaires. Et ça, ça ne durera pas. Lors de la Troisième République, au contraire, ils vont se déchirer, et on en a parlé. C'est vrai que, par exemple, en 1936, on a d'un côté les bibliothèques catholiques, de l'autre les bibliothèques populaires, et on se regarde en chaîne faïence pour récupérer les gens. Alors que là, tout le monde va se mettre d'accord pour se dire, et oui, il y a une urgence, les gens veulent lire. Et il faut leur donner des livres, parce que de toute façon, ils sont en train de lire, mais ils ne sont peut-être pas en train de lire des bonnes choses non plus. Donc autant se mettre tous d'accord et créer ces premières bibliothèques populaires. Alors, il y a une figure mythique ici, qui est Jean-Baptiste Girard, qui donc, d'après la mythologie, était arrivé à 20 ans, complètement analphabète, d'un petit village de Haute-Marne. Évidemment, hypothèse qu'il fallait démonter, qu'il fallait retravailler, plusieurs personnes s'y sont employées. C'était un petit peu difficile d'imaginer comment on pouvait arriver analphabète à 20 ans et 10 ans après avoir créé une bibliothèque populaire, mais c'est vrai qu'on le trouve dans les textes du 19e siècle, parce que ça fait joli, c'est une histoire édifiante, vous imaginez bien. Hein. Donc pas du tout, c'est quelqu'un qui visiblement savait lire et écrire quand il est arrivé, qui s'est intéressé tout de suite au mouvement de l'époque, en particulier je l'ai retrouvé dans les fameux clubs révolutionnaires de 1848, et puis surtout il va se trouver compromis dans une affaire, je ne sais plus si c'est en 1849 ou 1850, il va créer avec une certaine Jeanne de Roy une association des associations. Ce qui, évidemment, est très mal vu à l'époque. Le pouvoir politique en place ne peut pas supporter ça. C'est beaucoup trop séditieux. Qui plus est avec une femme qui est une militante féministe, une figure d'exception, une femme absolument exceptionnelle qui va se battre devant le tribunal pour affirmer qu'elle est une citoyenne et une femme. Donc Jean-Baptiste Girard est arrêté, va faire quelques mois de prison à Sainte-Pélagie, si mon souvenir est bon. À Sainte-Pélagie, il aurait là aussi bénéficié d'une petite bibliothèque et ça lui aurait donné l'idée merveilleuse de fonder plus tard une vraie bibliothèque. Bon, donc vous voyez, tout ça c'est un peu dans la mythologie, mais c'est important par la suite de dire voilà, il y a quelqu'un qui a fait tout ça. Et ce fameux Jean-Baptiste Girard, échaudé visiblement par ses mois de prison, il a quand même une femme et une petite fille, se range un peu quand il sort de prison, suit les cours, et c'est très important aussi dans les fondateurs de ces bibliothèques, de l'association philotechnique et polytechnique, qui sont donc des cours assurés en particulier par les professeurs de l'école polytechnique pour les ouvriers. Parmi ces fondateurs de ces cours de la polytechnique, vous avez un certain Père Donné. Alors lui, c'est tout à fait un autre milieu. C'est le milieu de la grande finance d'origine suisse. C'est quelqu'un qui est directeur des arts et métiers. Et c'est surtout quelqu'un, c'est important, qu'on appelle le patriarche des chemins de fer. Il est directeur de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et lui avait voulu déjà créer une première bibliothèque, mais il se méfiait, il avait une vision du peuple qui est très classique à l'époque. Hein. Il disait, les gens, ils ne vont pas rendre les livres. Il faut les faire lire sur place, mais il ne faut pas leur prêter. Et Jean-Baptiste Girard va discuter son projet avec les professeurs d'école polytechnique, obtenir des protections, et finalement obtenir l'autorisation de fonder la Bibliothèque des Amis d'Instruction du 3e arrondissement en 1861, avec à la fois des ouvriers, des professeurs, etc. Ce que vous disiez, M. Maudier, tout à l'heure, est extrêmement important. Dans cette assemblée, on sait très bien qu'il y a des espions à la solde de Napoléon III qui sont là, qui surveillent, qui écoutent les débats et qui vont raconter fidèlement tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. C'est donc des bibliothèques, on ne sait pas toujours trop comment elles se positionnent, on ne sait pas exactement quel est le rapport, si c'est par exemple Perdonnet qui surveille Girard ou si c'est Girard qui surveille Perdonnet, et parfois je me dis c'est Girard qui surveille Perdonnet, qui surveille Girard, etc., etc. Mais peu importe dans le fond, puisqu'ils arrivent à fonder cette première association. Qui dit association dit statut, ça c'est important, et vie associative. Donc, ils vont décréter, première chose, qu'ils vont acheter des livres ensemble. Ce qui était puni d'emprisonnement avant. J'ai retrouvé des traces de gens qui avaient essayé d'acheter des livres ensemble, et c'était considéré comme politiquement séditieux, donc ils avaient eu des peines de prison. Donc là, puisqu'ils ont les statuts, ils ont le droit de le faire. Ils vont acheter ces livres ensemble, et il y a une notion qui est très importante, qui a été évoquée aussi tout à l'heure, qui est la notion de l'engagement financier. Ces bibliothèques réfléchissent et disent « on ne va pas faire ça gratuitement ». Ils pourraient, à la limite, le faire gratuitement, mais ils font payer, c'est une question de dignité pour les ouvriers. Les ouvriers préfèrent payer. Et voilà, on donne un tout petit peu d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais on donne un tout petit peu d'argent, et nous sommes copropriétaires des livres. Ensuite, on paie donc son inscription, on paie une cotisation mensuelle, et tout ceci est de moitié moins pour les femmes. On retrouve là l'ombre de Jeanne de Rouen, bien entendu, qui avait réfléchi à une éducation, une instruction populaire et même à une bibliothèque pour les femmes. Donc c'est très important qu'elle paie moitié moins, puisque les femmes à l'époque, surtout dans les grandes villes, sont en situation de danger, les plus jeunes. Il est donc important qu'elles s'instruisent. Autre chose, merveille des merveilles, les livres sont donc prêtés. Parce qu'à l'époque, les bibliothèques municipales ne prêtent pas, et encore moins aux ouvriers. Ça peut arriver qu'on prête à un professeur de lycée, etc., etc., qui d'ailleurs ne rendra pas forcément le livre. Même chose à la Bibliothèque nationale, on prête aussi, malheureusement, on a des choses qui ont disparu comme ça, mais on ne va certainement pas prêter à l'ouvrier. De toute façon, l'ouvrier, il travaille tant que lorsqu'il se présente à la bibliothèque, elle est fermée. D'où une autre préoccupation qui est celle des horaires. C'est ce que vous avez signalé tout à l'heure. Elles sont ouvertes le soir. Elles sont ouvertes comme par hasard, on se demande bien pourquoi, le dimanche matin. Et voilà, ça permet donc à de nombreuses personnes, hommes comme femmes, de venir lire. Qui sont-ils? On le sait grâce aux inscriptions. On voit bien que sont touchés à la fois ici des artisans, des bourgeois, etc. On voit quelques traces d'inscriptions de femmes, beaucoup moins, tout simplement parce que, en fait, c'est souvent l'homme de la famille qui emprunte. Il emprunte, et on sait qu'il emprunte pour 4 ou 5 personnes. Il va emprunter pour ses enfants, il va emprunter pour sa femme, etc. Emprunte plutôt les veuves et les demoiselles, ou alors les femmes qui sont là à titre d'exemple, c'est-à-dire les femmes de la grande bourgeoisie, ou par exemple la fille de Jean-Baptiste Girard, qui sera inscrite elle aussi, pour donner l'exemple. Et donc tout ceci va permettre aux gens d'emprunter des livres, avec comme troisième ou quatrième article des statuts de la bibliothèque et de l'instruction, instruction et délassement. Et ça, c'est très important. Instruction pour leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à une ascension professionnelle, à une curiosité intellectuelle. On va donc trouver non seulement des sciences, mais aussi ce qu'on appelle à l'époque l'économie politique, Proudhon, etc., parfois déguisé sous d'autres titres. Et puis, on va avoir les romans. Et ça, ça va être un souci énorme pour les premières bibliothèques des amis d'instruction, et pour les bibliothèques populaires aussi, parce que dans un premier temps, ils se sont enorgueillis d'avoir des statistiques extrêmement intéressantes. Oh, ils empruntent en sciences, ils empruntent en géographie, etc. Et puis peu à peu, tout ceci se délite, et finalement, les gens empruntent de plus en plus de romans. Et c'est quelque chose qu'ils sont bien obligés de constater. Alors je voulais juste vous parler d'une dernière chose qui est intéressante. C'est une expérience bibliothéconomique, dans la mesure où Girard dit qu'il ne faut pas seulement le faire à Paris, il faut le faire en province, et il va choisir deux endroits. Il va choisir Vernon, parce qu'il a un ami de lutte, de ses premières luttes, qui est un architecte saint-simonien fourriériste, qui est Delbrück. Donc ils vont faire un premier essai, où ils vont bénéficier du soutien du duc d'Albufera, qui se trouve à Vernon. Donc vous voyez, on a toujours ce drôle de mélange entre à la fois des gens qui sont dans le domaine révolutionnaire et d'autres beaucoup moins. Mais le duc d'Albufera, visiblement, est franc-maçon lui aussi, ce qui explique peut-être pourquoi cette bibliothèque populaire a pu être fondée. Donc, expérience à Vernon, expérience à Horte, le tout petit village d'où était originaire Girard. On va donc là aussi fonder une première bibliothèque populaire pour voir comment ça se passe en province et à la campagne. Et dernière expérience, c'est pour ça que je vous ai dit que Perdonné était patriarche des chemins de fer, il ne faut pas oublier que si le livre peut autant circuler au XIXe siècle, c'est grâce aux chemins de fer. Épernay est l'endroit où est fondé l'atelier de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Donc on a des centaines et des centaines d'ouvriers qui sont en quête de lecture, et là aussi très certainement on veut encadrer leur lecture, et puis on a aussi le champagne qui commence à couler à flot. Donc on va trouver un drôle de mélange à Épernay, on va trouver à la fois Madame de Venoges qui vient avec son mari, et tous les deux s'inscrivent, et on va trouver tous les tonneliers, mais aussi tous les fondeurs, etc., de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Donc vous voyez, c'est vraiment une expérience sidérante, on est au début la décennie 1860, et on est en train d'essayer de créer des bibliothèques, de voir comment ça fonctionne, et on se met à échanger des conseils de bibliothèque en bibliothèque grâce à une société que tu as étudiée qui s'appelle la Société Franklin. Je te laisse la parole.
Donc moi, les deux axes d'études que je voudrais évoquer, c'est aussi la bibliothèque d'Anières. Et puis la Société Franklin. Donc comme tu l'as dit très justement, il y a rapidement des tentatives dès les premières années des années 1860. Il y a rapidement des tentatives pour exporter le modèle des bibliothèques populaires à la campagne. Et puis aussi rapidement dans d'autres arrondissements parisiens que celui du 3e arrondissement. Car il apparaît très vite qu'à Paris, il y a un vrai potentiel de lecteurs. Il y a quand même, les classes populaires sont nombreuses dans le Paris de l'époque, et il y a véritablement des possibilités pour ces bibliothèques de drainer un large public. C'est ce que les Amis de l'Instruction vont s'employer à faire en fondant presque une bibliothèque dans chaque arrondissement parisien. Et puis rapidement aussi en banlieue, avec donc l'extension de la ville donc, et la constitution d'une banlieue de travailleurs qui vont apparaître dans la seconde moitié du 19e siècle, et pour celle que j'ai étudiée en particulier à Anières, donc, où on retrouve une nouvelle fois Girard à la fondation, mais il y a aussi Choisy-le-Roi, il y a aussi Saint-Mandé aussi, où il y a une bibliothèque des Amis de l'Instruction, enfin il y en a un peu partout autour de Paris. Et donc celle d'Anières est fondée en 1871 par Girard, et c'est un peu un condensé de ce qu'Agnès a évoqué, avec donc une alliance une nouvelle fois entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Donc la classe ouvrière, c'est en plus à Anières, ils sont vraiment personnifiés, puisque la classe ouvrière c'est Girard, et la bourgeoisie ça va être Charles Fauvetti, qui est un peu l'équivalent de Perdonnet, qui va jouer le même rôle de protecteur, de caution morale et sociale pour la bibliothèque. Fauvetti est un personnage très intéressant, puisque non seulement c'est un bourgeois, mais en plus il est protestant, il est d'origine protestante, il est franc-maçon, et c'est un intellectuel. Bon, il n'a pas donné apparemment de cours du soir, il n'a pas participé à l'association polytechnique ou philotechnique, mais il fait partie de ces intellectuels qui veulent diffuser le savoir, qui veulent partager le savoir, et un savoir le plus large possible, avec les classes populaires. Ensemble, ils vont fonder cette bibliothèque d'Anières, qui est appelée à un avenir assez florissant, puisqu'elle va rapidement devenir la plus grande bibliothèque populaire du département de la Seine, dès la fin des années 1870, et qu'ensuite, elle va fonctionner durant très longtemps, de manière très florissante. Elle prête des milliers d'ouvrages chaque année. Les guerres, notamment la Première Guerre mondiale, sera juste un léger ralentissement dans son histoire, donc elle va perdurer très longtemps. Contrairement à la plupart des bibliothèques populaires parisiennes qui déclinent dès les années 1890, il y a une amorce déjà de déclin. On voit que le nombre d'inscrits, le nombre de lecteurs baisse, que le nombre de prêts baisse également, progressivement, et qu'ensuite les premières commencent à fermer leurs portes petit à petit en 1900. À Anières, la bibliothèque ne va faire que grandir, elle va engager du personnel, donc d'abord il n'y a qu'un seul bibliothécaire comme dans toutes les autres bibliothèques populaires, et puis ensuite il va y avoir un bibliothécaire adjoint, puis deux, puis des aides bibliothécaires, et elle va connaître son apogée même sous l'occupation, où à cette époque-là, enfin, le nombre de lecteurs va être presque même ingérable pour l'association. Elle va employer jusqu'à 6 personnes et son fonds de livres va monter jusqu'à 30 000 ouvrages, beaucoup plus qu'ici où on a quand même déjà 20 000 livres à Anières, donc il y aura jusqu'à 30 000 ouvrages. Et elle va fonctionner en fait jusqu'à l'ouverture de la bibliothèque municipale d'Anières qui va ouvrir en 1976. C'est à ce moment-là que la bibliothèque populaire ferme ses portes. Asnières échappe un petit peu, c'est la dernière fondation de Girard et ce sera finalement la plus pérenne et la plus brillante, tant en nombre de lecteurs que de prêts, que d'activités et puis aussi sur un très long terme puisqu'il y a presque finalement plus d'un siècle de lecture populaire à Asnières. Les autres bibliothèques des Amis de l'Instruction connaîtront un sort un peu moins brillant avec donc un déclin dès les années 1890, c'est déjà la fin de l'âge d'or, déjà à cette époque-là. Et puis ensuite, il y a plusieurs éléments qui vont se conjuguer pour progressivement amener à une diminution, une réduction du maillage de la lecture populaire laïque dans l'espace urbain parisien. Déjà, le premier facteur qui va amener déjà un peu la perte de vitesse des bibliothèques populaires, ce sera déjà la fondation d'un réseau de lecture publique parisien qui a été étudié par Laure Léveillé dans une thèse très intéressante sur les petites bibliothèques de la ville de Paris. La ville de Paris est exceptionnelle en France car c'est une des premières villes à fonder un réseau de lecture vraiment, un réseau de bibliothèques municipales ouvertes à un large public, au public le plus large possible, et également au public en blouse, donc aux ouvriers, aux classes populaires et aux femmes. Ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des villes françaises, puisque même dans les grandes villes de province, on a toujours les anciennes bibliothèques municipales qui sont un héritage de la Révolution et qui sont en fait des bibliothèques très patrimoniales avec les fonds qui ont été confisqués aux aristocrates lors de la Révolution de 1789 et qui s'adressent surtout aux érudits, aux savants, aux étudiants, qui sont fermés pour les classes populaires, il est impossible d'y accéder. Finalement, ce manque de bibliothèque pour les classes populaires qui est à l'origine, cette tension entre le désir de lire, la soif de lecture et de savoir, et l'impossibilité de rentrer dans ces anciennes, dans ces vieilles bibliothèques municipales, c'est cette tension-là qui va être à l'origine de la création des bibliothèques populaires, et donc aussi des Amis de l'Instruction. Eh bien, à Paris, elle va être résolue, cette tension, par la création d'un réseau de lecture municipal de la ville de Paris, ouvert à tous. Donc ces bibliothèques, d'abord, il n'y en aura qu'une par arrondissement, dans les mairies d'arrondissement. Ensuite, elles auront des annexes dans les quartiers, etc. Mais en 1890, elles sont plus nombreuses que les bibliothèques populaires. Et donc, à ce moment-là, logiquement, elles vont être un des facteurs du déclin des bibliothèques populaires, puisque les lecteurs vont préférer ces bibliothèques publiques, municipales, aux bibliothèques populaires. Le deuxième facteur qu'on peut citer, c'est une absence de renouvellement et d'actualisation des fonds, qui est vraiment l'explication bibliothéconomique un peu de la disparition progressive des bibliothèques populaires, et qui explique aussi la fuite du public justement vers les bibliothèques municipales. Les bibliothèques populaires ayant moins de moyens, fonctionnant uniquement sur les cotisations, comme l'expliquait Agnès, des adhérents, ont moins de moyens, moins d'argent pour renouveler leurs fonds, et notamment acheter les derniers ouvrages, les ouvrages les plus récents, ceux qui attirent les lecteurs, qui attirent le public. Cette absence de renouvellement ou ces renouvellements de fonds qui sont insuffisants, eh bien, vont faire que l'offre municipale de lecture va apparaître plus attrayante, puisque les bibliothèques municipales, elles, ont de l'argent et peuvent renouveler leurs fonds beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement, acheter vraiment les derniers ouvrages parus. D'un point de vue du bibliothéconomique, les ouvrages sont vieillissants, s'abîment beaucoup dans les bibliothèques populaires. Ça va favoriser la fuite également des lecteurs, qui devient vraiment très difficile à enrayer au tournant du XXe siècle. À partir des années 1900, véritablement, il va y avoir un déclin de plus en plus visible. Et ce déclin coïncide également avec un troisième facteur qui se met en place justement en 1900, au tournant du siècle, qui est aussi le facteur politique, puisque, comme j'ai pu le constater au cours de mes recherches sur les actes du Conseil municipal de Paris, puisque toutes ces bibliothèques populaires sont toutes subventionnées par le Conseil municipal de Paris, qui apporte quand même ces subventions précieuses qui viennent compléter efficacement les cotisations des adhérents. Ces subventions commencent très rapidement. Le Conseil général de la Seine donne ses premières subventions en 1870. La ville de Paris, ce sera à peu près au même moment. Ces premières subventions qui sont très précieuses, eh bien, il y a un tournant politique en 1900, puisque pour la première fois, la droite va remporter les élections municipales. Le conseil municipal de Paris était radical, était de gauche depuis la fin du Second Empire, et il était plus à gauche que le Parlement français. Donc en 1900, il y a une victoire de la droite qui va en fait favoriser beaucoup plus le réseau municipal en investissant dans les bibliothèques municipales et en retirant des subventions aux bibliothèques populaires, donc en diminuant les subventions, voire même en les supprimant. Cette politique va constituer aussi un des facteurs qui va faire que les bibliothèques populaires vont avoir de plus en plus de mal à fonctionner correctement et à poursuivre leur développement. D'ailleurs, ici, la BAI du 3e arrondissement a dû fonctionner plusieurs années sans subvention à cette époque-là, à cause de ces décisions municipales, avant que la subvention ensuite ne revienne. Donc, des raisons politiques, les bibliothèques les plus fragiles vont fermer, et ensuite, la Première Guerre mondiale va aussi accélérer ce déclin, donc avec des difficultés pour acheter des livres, une baisse du nombre d'adhérents, puisque c'était quand même une population en majorité masculine, donc les hommes étant mobilisés, ne revenant pas du front pour certains, le nombre d'adhérents, le nombre de lecteurs baisse, le nombre de cotisations baisse également. Et donc il y a un peu une crise générale. Alors beaucoup de bibliothèques populaires vont rester ouvertes tout de même durant la guerre. C'est le cas d'Asnières, c'est le cas aussi ici dans le 3e arrondissement. Elles fonctionnent un peu au ralenti. Elles mettent un point d'honneur à rester ouvertes. Et juste après la Première Guerre mondiale, donc à partir des années 20, il va y avoir un mouvement en plus de municipalisation. C'est-à-dire que là, on cherche vraiment à municipaliser ces bibliothèques populaires, les mairies qui n'ont pas encore fait, notamment en banlieue, puisqu'en banlieue, il y avait des besoins en installation de première nécessité. Là, elles vont se tourner plus vers une politique culturelle. Il va y avoir aussi le phénomène des banlieues rouges qui vont s'installer à cette époque. Des mairies communistes qui vont prendre la politique culturelle à bras-le-corps. La politique culturelle devient aussi un enjeu électoral, c'est-à-dire que les maires et conseils municipaux vont avoir à cœur de contenter les électeurs, de satisfaire les électeurs de ce point de vue-là, notamment les électeurs issus des classes populaires. Et donc tout cela va entraîner une municipalisation de la lecture et des bibliothèques, encore plus que ça ne pouvait déjà être le cas, c'est-à-dire que dans Paris, cette municipalisation était déjà très avancée. En banlieue, elle va être réalisée donc un peu plus tard, durant l'entre-deux-guerres. Au commencement de la Seconde Guerre mondiale, on a déjà les deux tiers des bibliothèques populaires qui ont disparu, et la Seconde Guerre mondiale ne va pas arranger les choses. Les bibliothèques populaires, après la Seconde Guerre mondiale, ne seront plus qu'une poignée, vraiment, dans le département de la Seine. De la même manière, dans la France entière, il y a une survivance encore de quelques associations, mais qui vont avoir de plus en plus de mal donc, à vivre, qui vont petit à petit s'orienter vers des lieux, une mémoire du mouvement ouvrier, et de moins en moins vers vraiment des bibliothèques de prêt. Il y a certains fonds qui vont être récupérés par des bibliothèques municipales. Finalement, la bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement, elle a toujours réussi à survivre, donc à maintenir cette activité de prêt jusqu'en 2000. Et aujourd'hui encore, donc l'association fonctionne de la même manière, toujours avec les statuts et avec le même fonctionnement, donc avec l'Assemblée Générale qui élit les administrateurs. Mais elle est donc la dernière bibliothèque populaire à fonctionner, à être ouverte au public, dans Paris, en Île-de-France également, et sans doute aussi en France.
Ces difficultés de fonctionnement sont liées à deux postes. Le premier, c'est la location d'une salle qu'il faut chauffer, sachant d'ailleurs que régulièrement on note qu'il y a davantage de lecteurs qui s'inscrivent l'hiver que l'été, c'est normal. Hein, voilà. Et le deuxième poste, mais qui vraiment va ruiner les bibliothèques et qui va les empêcher de faire des acquisitions, c'est la reliure. Parce qu'à l'époque, les livres sont brochés, et un livre broché qu'on fait circuler une fois, deux fois, ça y est, il tombe en miettes, et donc il faut des reliures. Alors la société Franklin va mettre en place une reliure mécanisée grisâtre, qui du coup n'est pas très jolie et pas très attractive, et qui peut expliquer aussi...
Et qui ne va pas vraiment fonctionner, et qui va pas être très utilisée non plus.
Donc par exemple, le fond d'Asnières, c'est intégralement ces 30 000 volumes revêtus de cette couverture grisâtre. Ça ne devait pas être attrayant, enfin bon, voilà. Alors pourquoi ici, ce n'est pas justement ces reliures grisâtres? C'est parce qu'ici, il y a eu énormément de dons aussi. Donc on retrouve déjà les dons, et puis après, eh bien, la bibliothèque ne s'est pas engouffrée dans cette politique de reliure bon marché. Mais quoi qu'il en soit, ça représentait à peu près le budget de reliure, la moitié d'un budget de fonctionnement d'une bibliothèque populaire. Donc après, quand il fallait louer la salle, chauffer, etc., il restait pratiquement plus rien. Il y a des bibliothèques populaires qui parfois achètent 5 ouvrages dans l'année, 6, voilà, c'est tout ce qu'elles peuvent faire. C'est vrai que ça va être un très très lourd handicap. Alors pendant ce temps, l'État lui dit « Ah mais nous on peut vous faire des donations de livres hein. ». Donc il y avait un système du ministère qui consistait à envoyer des livres aux différentes bibliothèques populaires, mais il fallait à ce moment-là que les bibliothèques populaires acceptent et l'indiquent dans leur statut que si elles fermaient, le fonds était remis à l'État. Mmh. Ce qui fait que certaines bibliothèques n'ont pas accepté. Et puis de toute façon, ces fameux envois du ministère étaient généralement une manière de donner des rentes à des écrivains n'ayant pas trop de succès, mais de l'entre-gens, ce qui fait que ces publications n'étaient pas forcément très passionnantes non plus, et ce n'était pas du tout ce qu'attendaient les gens. On le sait en lisant les rapports des inspecteurs de bibliothèque, hein, donc les inspecteurs de bibliothèque vont voir les bibliothèques municipales, mais aussi les populaires, et on consigne les remarques des bibliothécaires des bibliothèques populaires qui disent, voilà, ici par exemple, on est à la campagne, donc les instructions du ministère des Armées, ça ne nous intéresse pas. Les paysans, ils veulent des ouvrages pour apprendre comment on cultive. Et on a le cas que tu connais bien, Michel, qui est très intéressant, qui est la bibliothèque de Montreuil, qui est une des premières bibliothèques populaires aussi, où effectivement, là, on a acheté un fonds d'horticulture, de maraîchage, etc., pour se mettre à la portée des gens, de leurs emprunts. C'est la ville du maraîchage, de l'horticulture, donc on leur fournit ces livres-là. Et à Agnières, de la même manière, il y a un fonds aussi qui quand même reflète un petit peu aussi la composition du lectorat, c'est pour ça qu'il est important. Donc voilà une des difficultés de bibliothèque populaire, et c'est pour ça que la librairie publique va dire, regardez chez nous, on a des belles salles, on a des fauteuils, on a la lumière, on a des livres nouveaux, donc venez chez nous, et ça va marcher, et ça va rendre la bibliothèque populaire complètement obsolète, poussiéreuse face à ça, et ça va lui faire une histoire qui pendant longtemps, jusqu'à l'ouvrage de Noé Richter, va faire qu'on croyait que la bibliothèque populaire, c'était pas intéressant. Et Noé Richter a attiré l'attention là-dessus en disant, mais non, au contraire, elles étaient pionnières, et ce sont elles qui ont permis tout ce mouvement de prêt et ces nouveautés très très intéressantes. Donc comme je vous le disais, il y a aussi quelque chose qui est fabuleux, c'est de voir ces gens réfléchir à la manière dont on va inscrire un lecteur, comment est-ce qu'on inscrit le nom d'un lecteur, comment est-ce qu'on fait un registre de prêt, qu'est-ce qu'on doit accepter ou non comme prêt, etc., etc. Donc on voit peu à peu les rudiments de la bibliothéconomie. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est le catalogue. Les bibliothèques populaires, on saisit qu'en fait, un lecteur qui arrive dans une bibliothèque, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand il arrive dans une bibliothèque et qu'il n'a pas l'habitude de la fréquenter, il se retrouve devant un bibliothécaire et puis il lui dit « je voudrais un livre sur je sais pas trop » et le bibliothécaire n'est pas forcément en face très compréhensif, très chaleureux et très accueillant. Donc, dans les bibliothèques populaires, on s'était dit « il faut que chaque lecteur ait son catalogue, il le reçoit au moment de son inscription, il le prend chez lui et tranquillement, il va le regarder chez lui ». Et là, il y a eu tout un travail aussi de réflexion sur ce que c'est qu'un catalogue. Parce que dans les bibliothèques municipales, le catalogue, c'était pour les érudits. L'érudit, il sait ce qu'il veut comme livre. Donc on va trouver un classement par ordre alphabétique ou un classement par thématique savante. Donc dans les bibliothèques populaires, on va faire un classement par thématique, mais des thématiques qui intéressent les lecteurs. Et c'est pour ça qu'on va trouver souvent dans les catalogues des bibliothèques populaires, en premier, l'histoire, les voyages, les sciences, tout ce qui est donc instructif. Et à la fin seulement, on va trouver les romans, tout ce qui est délassement. Mais c'est clair pour le lecteur, et petit à petit, on va aussi le faire par ordre alphabétique d'auteur en plus, pour que les gens puissent se retrouver. Au début, on le faisait par ordre d'arrivée, parce que c'était plus simple. Donc le 1, c'était le premier ouvrage arrivé, le 2, le second, etc. Donc on va travailler là-dessus. Et c'est aussi par opposition à ces bibliothèques paroissiales, ou cette œuvre des bons livres dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que les catalogues des bibliothèques paroissiales étaient, eux, complètement inefficaces et inintéressants, puisqu'ils étaient par ordre alphabétique de titre. Je ne vois même pas comment les gens les utilisaient. Hein. Donc on avait juste par ordre alphabétique de titre des ouvrages en plus dont le titre était peu évocateur, si ce n'est qu'on comprenait bien systématiquement que c'était très édifiant et que ça avait été écrit par l'abbé Machin, etc. Lecture, hein.
Oui, voilà aussi. Les catalogues que François Sparrand a étudiés,
oui, tout à fait.
C'est par titre.
Ouais, c'est par titre aussi. Ouais, voilà. Donc il y a cet effort, vous le voyez, d'instruction hein, du peuple par la thématique pour que le peuple puisse aller chercher vraiment des ouvrages qui l'intéressent, d'économie politique, d'hygiène, etc. Là, il est guidé, il est dirigé et surtout on dédramatise les lectures. Donc au début, il y avait aussi un libre accès dans ces bibliothèques populaires de manière à ce que le lecteur, contrairement à la bibliothèque municipale, puisse tirer le livre, le regarder, le remettre, etc. Donc vous voyez, il y a une réflexion qui est passionnante.
Ça, c'est fondamental, parce que on a oublié aujourd'hui que ce type de bibliothèque, c'est extrêmement moderne. La bibliothèque de mon enfance, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la bibliothèque municipale, on n'a pas accès. On n'a pas accès au rayonnage, sauf dans certaines communes. Mais on demande aux bibliothécaires. Donc il y a une médiation, comme dans les librairies. Avant 1960, on ne touche pas au livre. On ne va pas dans une librairie pour prendre un livre, surtout pas. On demande au libraire de le prendre. Ça, c'est vraiment, en effet, révolutionnaire. Mais c'est Marie-Françoise est toujours là.
Oui,
je pense que ça, c'est un modèle britannique.
Oui, c'est en sérieux. Oui, je
c'est un modèle anglo-saxon.
Oui, c'est anglo-saxon, oui. Oui, oui.
Ça s'appelle Open Access en anglais. Ça a été un élément important de l'histoire du Brexit. On ne pourrait pas vous donner la date.
C'est vraiment une particularité anglaise, américaine.
Oui.
Tout ce monde.
Mais est-ce qu'on sait comment fonctionnait la BAI de ce côté-là? C'est-à-dire qu'il y avait un guichet quand même. Les gens pouvaient se déplacer pour choisir les ouvrages?
Oui, tout à fait.
Ce n'était pas simplement sur le catalogue.
Non.
Oui, ce qui n'était pas le cas partout, puisque à Nières, là, il y avait vraiment le guichet et il fallait dire au guichet ce qu'on voulait.
Si, c'était du libre accès à l'époque.
En Angleterre, c'était quand même, ils ont mis aussi en même temps, en parallèle, quand ils ont ouvert l'open access, ils ont mis au point un système de contrôle du guichet à la sortie.
Oui, bien sûr. Ça, c'était le cas aussi. Oui. Hein. Il y avait un registre des sorties. Mais par exemple, à Vernon, on a des pages et des pages de réflexion, parce que dans un premier temps, c'était libre accès, puis après, les gens ont mis les livres dans leur poche et sont partis avec. Donc, il y a le bibliothécaire qui écrit, qui dit eh ben, mais il faut faire quelque chose. Donc,
voilà. Le libre accès, ça a été catastrophique pour les livres.
C'est cyclique ce genre d'expérience de toute façon. Donc,
en plus, les bibliothécaires se plaignaient du désordre parce qu'après les livres n'étaient pas classés.
Oui, voilà, il y avait ça aussi. Ouais. J'ai une information très importante. Donc l'adaptation de la DIWE en France, hein, donc cette classification que vous connaissez hein, dans les bibliothèques, elle a été faite par Eugène Morel, qui est vraiment pourtant quelqu'un qui vient de la Nationale, lui. Hein. Il travaille à la Nationale. Il appelle ça les populaires. Hein. Il a écrit dans un de ses livres « Abat les populaires ». Un chapitre qui fait qu'on a longtemps dit que Morel était opposé aux bibliothèques populaires, parce qu'il avait écrit « Abat les populaires ». En fait, il a écrit « Abat les populaires » parce qu'il veut simplement qu'on rénove la librairie. Là, je dis la librairie parce que il a été en Angleterre et il veut la librairie publique en France. Voilà. Mais en fait, Morel va s'intéresser à ces fameuses bibliothèques populaires et il va aller à Levallois-Perret opérer le tri de toute la bibliothèque et appliquer la classification d'IWE dans la bibliothèque populaire de Levallois-Perret. Donc c'est assez intéressant de voir que là encore, ce sont les bibliothèques populaires qui vont servir de laboratoire dans les années 1920 à cette fameuse d'IWE. Et pas du tout le Eugène.
Oui, comme Coyette, ils ont la chance de s'appeler Eugène tous les deux.
Voilà,
le problème de cette classification d'IWE, quand on réfléchit, c'est que quand même, on est déjà en 1880, or la d'IWE, elle commence évidemment par la théologie.
Oui, par la religion. Oui.
Or, on est à une époque où quand même la religion commence à céder la place. Or, on introduit dans les bibliothèques, y compris populaires et municipales, quand même la Bible en premier, la religion, le livre religieux en premier, ce qui est une aberration. Mais bon.
Surtout que ça vient dans les pays anglo-saxons.
Donc, oui, bien sûr.
Avant toute
Mais la DIWE s'étant imposée effectivement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'était difficile de ne pas l'appliquer. Mais ça a pesé quand même longtemps sur la constitution des fonds dans les bibliothèques.
J'avais une question, peut-être au niveau de l'évolution au cours des deux guerres mondiales. Ce qui est frappant, parce qu'apparemment ça a été des coups de boutoir pour. Qui ont précipité le déclin des bibliothèques populaires. En Belgique, au contraire, j'ai plutôt des indices qui montrent que beaucoup de bibliothèques populaires, même catholiques par exemple, ont eu des pics de croissance durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Il y avait une soif de lecture. Oui.
Étienne Nadéo, dans sa thèse, a bien montré que la courbe à Asnières, ça augmente jusqu'en 1944, et que même on interdit de nouvelles adhésions parce qu'on n'est plus capable.
Oui, ça devient ingérable. Il y a tellement de lecteurs que ça dépasse l'association. L'association est trop petite pour les accueillir tous, et voilà. Mais Asnières est quand même une exception.
Elles possèdent le lieu où elles sont installées ou elles sont vulnérables?
On n'a pas de réponse pour toutes les bibliothèques puisque chaque bibliothèque connaît une situation différente. À Meudon, par exemple, il y a eu don du lieu. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'intéressait à Meudon, à la bibliothèque populaire, et qui a donné le lieu. Donc évidemment, toutes les situations sont différentes. Ici, le lieu a effectivement été laissé par la mairie, sauf qu'à un moment donné, enfin plusieurs histoires, par exemple en 1914, ici, en fait, la bibliothèque était logée tout là-haut, et il a fallu descendre. Et encore, c'est parce qu'il y a des gens qui ont soutenu la bibliothèque et qui ont dit non, on préfère garder un endroit. Donc il y a eu une grosse bataille pour garder cet endroit. Elle a failli disparaître ici.
Dans d'autres arrondissements, je crois que c'est le 14e ou quelque chose comme ça, le doublement du loyer, brutal, fait qu'ils ont été obligés de fermer.
Voilà, bien sûr.
Ça a été réglé. Hein.
Alors, est-ce que j'ai mal compris, tout à l'heure vous avez fait une distinction entre les termes éducation et instruction?
Oui, tout à fait.
Alors qu'est-ce que ça recoupe? Le ministère de la rue de Grenelle s'est d'abord appelé ministère de l'instruction publique jusqu'en 1932. Et il devient ministère de l'Éducation nationale en 1932. On substitue donc, au fruit, au bout d'une longue réflexion, l'éducation à l'instruction. On considère que dans l'éducation, il n'y a pas simplement le fait d'apprendre à lire, à écrire et à compter, mais qu'il y a bien autre chose. L'instruction,
c'est la sortie de l'analphabétisme.
C'est aider la personne à progresser dans son instruction, pour le coup, sans la formater du point de vue de l'éducation. C'est un petit peu la visée ici de la bibliothèque des amis d'instruction. L'éducation, ça a une connotation beaucoup plus morale que l'instruction.
Plus morale au départ et plus large après.
Voilà, pensez au moment de la construction. Il faut lire Condorcet, etc. Voilà.
Mais ce qui m'a toujours amusé, c'est que la bibliothèque de l'instruction, elle ouvre en 63. Hein.
61.
Oui. Au moment où... Ah oui, donc c'est quand même quelques mois avant que Victor Hugo ne publie Les Misérables.
Oui.
Puisque dans Les Misérables, Marius et les jeunes révolutionnaires font partie de la société des amis de l'ABC. Ce qui est un clin d'œil pour ne pas dire que c'est une... Les amis de l'instruction.
Ça rebondit sur votre question de tout à l'heure. Il y a beaucoup d'écrivains qui s'intéressent à ce qui se passe dans ces fameuses bibliothèques. Hein, donc c'est ce que disait Annie Guenry pour Choisy. Victor Hugo, par exemple, va être présent dans énormément de bibliothèques populaires, donner beaucoup d'ouvrages, donner des lettres de soutien, etc. Au musée Victor Hugo, il y a comme ça, par exemple, toutes les lettres envoyées par les bibliothèques des amis de l'instruction qui ont défilé lors des funérailles nationales qu'on a pu faire à Victor Hugo. Et vous avez d'autres écrivains qui sont venus pour telle ou telle fondation... soutenir telle ou telle bibliothèque populaire, donner leurs ouvrages, etc. Alors en effet, ils sont très sollicités. Je sais qu'à Épernay, il y a une grande déception parce qu'on a sollicité Hermann Chatrian et ils viennent jamais. Donc c'est pendant 4-5 ans sur le registre, nous avons écrit à messieurs Hermann et Chatrian. Et... bon voilà. C'est...
Mais ça, moi j'ai trouvé des lettres chez les éditeurs où effectivement Victor Hugo ou d'autres écrivains disent à l'éditeur de répondre systématiquement oui et donc de donner leur livre. C'est-à-dire que ces écrivains sont conscients que c'est pas un manque à gagner, mais que bien au contraire, ça va être une popularisation, dans le bon sens du terme, que de donner leurs livres et de les mettre dans les bibliothèques.